découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Bien après une interruption de plusieurs semaines consécutives à la crise sanitaire que nous vivons depuis un certain temps, et après l'interruption liée au confinement qui nous a été imposé, je suis heureux de reprendre avec vous ces catéchèses sur la doctrine sociale de l'Église. On s'en était arrêté aux structures de péché qu'on avait à peine commencé. J'y reviendrai très vite pour réembrayer sur la suite. Mais je pense qu'il peut être bon de faire une petite introduction de reprise, si je puis dire, ou de déconfinement de notre catéchèse de l'Église sociale de l'Église, pour savoir les incidences, précisément, au plan de la doctrine sociale de l'Église, de ce que nous avons vécu, l'expérience que nous avons vécue. Vous voyez, le confinement et les mesures de restriction, même dans nos libertés fondamentales, a été lié à une donnée essentielle du bien commun, qui est la santé. Donc nous ne devons jamais faire une valeur absolue pour autant. La santé, c'est une des conditions qui définissent le bien commun. Et le bien commun, c'est le bien que nous recherchons en commun, et que tous peuvent rechercher en commun, et qui est de l'ordre de la fin dernière, en tout cas de la société des hommes, hein, qui n'est pas la fin dernière ultime des personnes qui constituent la société. Ça, c'est le royaume des cieux. Elle est surnaturelle, cette fin dernière. Mais disons que la société, en tant que communauté naturelle qui rassemble les hommes dans un ordre donné, comme nous l'avons déjà explicité, a une fin dernière qui est le bien commun. C'est-à-dire l'ensemble des conditions physiques, sociales, économiques, culturelles et spirituelles qui permettent à l'homme de rechercher sa fin. Sa fin dernière surnaturelle qui évidemment est au-delà du bien commun. Donc c'est de l'ordre de la fin. Et toutes ces conditions qui constituent la recherche du bien commun sont de l'ordre des moyens. La santé n'est pas une fin, n'est pas une valeur absolue. Elle n'est pas la fin dernière de la vie humaine. Hein, je ne me lève pas le matin en me disant que mon objectif, c'est de rester en bonne santé toute la journée. Même si c'est important pour réaliser les fins de la personne humaine, d'être en bonne santé. Mais je peux les réaliser aussi dans la maladie. Hein, c'est évident. Et par conséquent, ça fait partie quand même du bien commun, et c'était logique que l'État, qui a en charge le bien commun, eh bien, pour des raisons sanitaires graves, comme celle de la propagation d'un virus qui peut mettre à mal la santé des citoyens, jusqu'à les menacer de mort, hein, comme on l'a vu, pour des raisons sans doute de politique de santé déficiente depuis des années, d'imprévoyance aussi, parce que gouverner c'est aussi prévoir, mais qui n'est pas le fait de ce gouvernement, mais de gouvernements successifs, qui se sont effectivement succédés depuis 15-20 ans. Mais ceci dit, il était logique que ceux qui président au bien commun de la société, de la cité, eh bien, prennent des mesures assez drastiques pour protéger les citoyens contre la propagation de ce virus et au nom de la santé de tous. En même temps, on voit bien que le bien commun visé a nécessité, dans les restrictions proposées, par décret, s'il vous plaît, du gouvernement, eh bien, de rogner un certain nombre de libertés fondamentales que les citoyens ont accepté, précisément parce que c'était proportionné à la recherche du bien commun, dont la santé, encore une fois, est un élément privilégié. Par exemple, la liberté d'aller et de venir. On s'est trouvé confiné chez soi, avec possibilité quand même de se promener à un kilomètre de chez soi pendant une heure, et donc on était obligé de donner une auto-attestation de déplacement, avec des raisons bien précises, pour faire des courses, pour prendre un peu l'air, etc., à la police, si on pouvait être verbalisé, si on n'était pas détenteur de cette déclaration. Donc c'est une restriction de la liberté d'aller et de venir, de libre circulation, à laquelle on a consenti, tout simplement pour préserver ce bien de la santé, qui fait partie du bien commun. Aussi, la liberté de se rassembler. Il n'était plus possible de se rassembler. Or, on sait bien que le rassemblement fait partie de notre bien-être humain. Alors, sans doute, on était confiné en famille, dans le meilleur des cas, mais il se pouvait que les relations entre les différentes générations étaient brisées, interrompues, avec évidemment des conséquences qu'on pouvait prévoir. Une personne âgée qui ne voit plus sa famille pendant 2 mois peut aussi développer ou déployer des maux, des pathologies même graves, et qui peuvent aller jusqu'à mourir de chagrin parce qu'on ne voit plus les siens. Vous voyez ? Donc c'est toujours pareil, la restriction des libertés fondamentales doit être proportionnée au bien commun et donc à cette mesure de santé qui fait partie du bien commun. Liberté de culte. Alors nous y avons tous consenti dès lors que tout rassemblement était interdit, parce qu'on savait que les interactions sociales étaient l'une des causes de la propagation du virus. Et donc nous avons accepté de, non pas de fermer les églises parce qu'elles étaient toujours ouvertes pour la prière personnelle, mais en tout cas de rassembler les fidèles pour la messe du dimanche et même en semaine. Ça a été une grave privation, mais ceci dit, on y a consenti pour le bien commun. Dès lors que le déconfinement s'est amorcé, qu'un certain nombre de secteurs de la vie sociale ont recommencé, comme les transports en commun, comme les commerces, comme les petits musées, etc., eh bien, l'interdiction qui a été décrétée par le gouvernement de tout rassemblement et de toute réunion dans les lieux de culte n'était plus proportionnée au bien de la santé, qui fait partie du bien commun. Et donc devenait une atteinte grave à une liberté fondamentale qu'il fallait rectifier. D'ailleurs, le Conseil d'État a recadré le gouvernement en lui demandant de modifier son décret parce que c'était une atteinte grave et donc illégale par rapport à la Constitution française à la liberté religieuse, qui comprend comme composante essentielle de se rassembler pour des cérémonies à l'intérieur des lieux de culte. Vous voyez comment tout ça peut être plein d'incidences dans notre compréhension de la doctrine sociale de l'Église concernant le bien commun et les libertés fondamentales. Quand est-ce que ces libertés peuvent être restreintes? Quand est-ce qu'elles sont proportionnées au bien commun, précisément, qui est à la charge de l'État ?